Vous écoutez
RMC.
8h passées de 1 minute. Excellente journée sur RMC.
RMC. Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La justice est-elle intraitable, comme le voulait Emmanuel Macron avec les casseurs de samedi à Paris? Les premières peines sont tombées, 36 condamnations, mais personne en prison et personne pour payer les réparations. Nous serons dans le Gers dans ce journal au lendemain de la mise en examen d'un homme de 41 ans dans l'enquête sur la disparition d'une collégienne de 11 ans. Et nous serons également aux États-Unis, d'ores et déjà à 9 jours de la Coupe du Monde. Les Américains, vous verrez, se remettent à prendre les règles du football.
Si on résume ce matin, 36 personnes ont été condamnées depuis dimanche pour des violences, les violences de samedi soir à Paris.
Alors sur ces 36, il y en avait 11 qui étaient jugés en comparution immédiate hier, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, la peine la plus lourde qui a été prononcée, c'est 1 an de prison, dont 6 mois ferme, mais une peine aménageable. Autrement dit, personne n'a dormi en prison cette nuit et tous les prévenus sont rentrés chez eux hier soir, comme un certain Théo, 24 ans, que vous allez entendre avec Julie Brault pour RMC. Il a été condamné, lui, à 10 mois de prison avec sursis pour avoir jeté une chaise sur des policiers et pour avoir été interpellé samedi avec un mortier.
Maillot du PSG encore sur le dos, les traits tirés, Théo tombe dans les bras de sa femme et de son père à la sortie du tribunal.
J'aurais dû écouter mon père et ma femme. Ils m'ont dit de pas y aller et ils m'ont dit que j'allais finir en garde à vue. Ça n'a pas loupé. Et je regrette largement parce que j'ai pas eu mon fils pendant 4 jours. Donc là, je suis pressé de rentrer d'aller le voir, quoi.
Car pour ce père de famille, la fête fut courte. Le soir de la victoire du PSG, à peine descendu de sa voiture, il se fait contrôler alors qu'il est en possession de 7 fumigènes et un mortier d'artifice.
Quand vous voyez 8 policiers cagoulés avec des matraques et un bouclier, ça fait peur, quoi.
L'homme de 24 ans prend alors la fuite, lance une chaise, blessant un policier avant d'être interpellé, mais il assure qu'il ne voulait pas commettre de violence.
Moi, comme je dis, je reste supporter. Oui, j'aurais claqué quelques fumigènes, mais pas pour blesser des gens. Ni les forces de l'ordre. Ils sont pas là pour être blessés non plus. Je vous dis clairement, j'ai eu peur de partir en prison et c'était ma première expérience, mais je pense pas recommencer, je vous le dis tout de suite.
Condamné à 10 mois de prison avec sursis, Théo assure avoir bien retenu la leçon, lui qui promet désormais de célébrer les futures victoires du PSG chez lui, en famille, sur son canapé.
Alors, quelle réponse politique à ces violences? Vous vous souvenez de ce que promettait Emmanuel Macron? C'était dimanche.
C'est pas le foot, ça. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
Et alors, un an avant, pour les mêmes violences, il disait ça.
Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela.
Autrement dit, le discours n'a pas changé. Depuis ce week-end, il y a des responsables politiques de Gabriel Attal à Jordan Bardella qui remettent au goût du jour la fameuse formule « tu casses, tu répares » pour que les casseurs payent les dégâts des violences. Mais alors Sonia Gobry, vous nous dites pour RMC que normalement, c'est déjà ce qui devrait se passer.
Oui, depuis la loi anti-casseurs adoptée en 2019 en pleine crise des Gilets jaunes, le principe est simple. Sur le papier, l'État peut se retourner contre les casseurs même sans condamnation. Sauf que dans la réalité, il faut un alignement parfait des planètes, confie à RMC un préfet. Une source gouvernementale confirme, c'est trop compliqué parce que pour demander à un casseur de rembourser, il faut prouver que c'est bien lui précisément qui a causé les dégâts. Et c'est bien le problème, dans un contexte d'émeute ou dans un débordement de groupe, difficile d'identifier formellement celui qui allume un feu de poubelle ou casse la vitre d'un abribus. Alors désabusé, un maire francilien estime que c'est de l'énergie gaspillée. Pour lui, je cite, c'est typiquement le genre de sujet où il faut arrêter de faire de la communication.
Il est 8h05 et les recherches continuent dans le Gers où cela fait désormais 4 jours qu'on est sans nouvelles de la jeune Liana, cette adolescente de 11 ans portée disparue depuis qu'elle est sortie de son collège dès vendredi dernier à Fleurance et depuis qu'elle est montée dans la voiture d'un suspect de 41 ans qui a été mis en examen pour enlèvement et écroué dans la soirée. Pierre Bourgès, vous êtes en direct ce matin dans cette petite ville de Fleurance où les enquêteurs mais aussi les habitants poursuivent les recherches.
Oui, d'abord sur le terrain. 72 gendarmes venus de Clermont-Ferrand sont arrivés en renfort hier, portant le dispositif de recherche à 170 militaires aux alentours de Fleurance. Les hommes vont continuer encore aujourd'hui à ratisser en priorité les zones boisées particulièrement difficiles d'accès. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique survole aussi la zone en appui. Des équipes cynophiles et des plongeurs sont également sur place. Et puis, il y a les investigations réalisées par les enquêteurs pour tenter de comprendre ce qu'a fait le principal suspect vendredi après-midi. Au moment de la disparition de Liana, sa voiture dans laquelle est montée la fillette brune a été emmenée au siège de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie en région parisienne. Le véhicule est passé au peigne fin pour rechercher des traces de Liana. Les enquêteurs s'attarderont ensuite sur l'électronique de la voiture qui pourrait aider à reconstituer les derniers trajets du suspect. Mais pour l'instant, malgré la montée en puissance du dispositif, la jeune fille de 11 ans reste toujours introuvable, plongeant les habitants de Fleurance dans une très grande inquiétude.
Des victimes du cadmium vont manifester en fin de journée à Paris, le jour où les députés se lancent dans l'examen d'une proposition de loi visant à réduire les taux de ce métal lourd qui est présent naturellement dans les sols, mais aussi dans les engrais et qu'on retrouve donc dans tout ce qui est pain, céréales, pâtes et qui serait responsable de nombreux cas de cancer, notamment la multiplication par 4 des cancers du pancréas depuis 30 ans. Bérangère Bocquillon, vous avez rencontré pour RMC Aurélien qui se bat, on peut dire ça comme ça, contre le cadmium.
Aurélien a 25 ans, il a perdu sa mère en décembre dernier.
Elle avait 58 ans.
Un cancer du pancréas diagnostiqué à peine 3 mois plus tôt.
Il n'y avait quasiment pas de symptômes. C'est aussi pour ça que le cancer du pancréas est si mortel, parce qu'on s'en rend compte relativement tard. À partir du moment où le diagnostic était posé, on savait qu'elle allait mourir.
Une femme jusque-là en pleine santé. Aurélien soupçonne le cadmium d'être à l'origine de sa maladie. Car le lien entre ce métal lourd et le cancer du pancréas a récemment été souligné par l'Agence nationale de sécurité alimentaire. Il a donc lancé une pétition pour exiger moins de cadmium dans nos assiettes.
Cette mesure, elle coûte presque rien et il y a un bénéfice énorme en termes de santé publique et qu'on pourrait sauver des vies.
Cancer, maladie rénale, ostéoporose, le cadmium est aussi toxique pour la fertilité. Aurélien entend mener ce combat pour toutes les victimes de ce poison lent.
Il y a un sentiment d'injustice énorme. J'ai envie de la garder, je pense, un petit peu cette rage qui m'habite. Ma maman, c'était quelqu'un d'extrêmement bon et faire en sorte qu'elle ne soit pas morte pour rien.
En France, nous sommes 3 à 4 fois plus contaminés que nos voisins européens.
C'est le début des quarts de finale à Roland-Garros où les joueurs du PSG ont célébré leur Coupe d'Europe. Ils ont présenté leur Ligue des Champions au public hier avant de rejoindre aujourd'hui les Bleus qui sont donc au complet à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde dans 9 jours en Amérique et notamment aux États-Unis où notre envoyé spécial Martin Bourdin se trouve déjà et nous dit que les Américains ne sont pas tout à fait à la page avec le soccer, hein, comme on dit là-bas.
Regarder tranquillement un match de foot à la télé, inconcevable pour Chuck, même pour la Coupe du Monde.
I don't care, bro.
Je n'en ai rien à faire, lâche sans aucun scrupule ce retraité fan de hockey.
The soccer players are,
Les footballeurs, ils sont toujours à se rouler par terre. Moi, j'aime les sports de dur, donc je ne peux pas regarder le foot, c'est trop lent pour moi.
Outdoors, too slow for me.
Et voir le gratin du foot mondial, les meilleures équipes, les meilleurs joueurs débarquer aux États-Unis a le don d'agacer Léo, casquette aux couleurs de la Floride bien vissée sur la tête.
All they are glorified.
Ce ne sont que des enfants gâtés, glorifiés, que les enfants prennent pour des héros. Ce ne sont pas des héros.
Pourtant, Miami, c'est peut-être la ville du soccer. Aux États-Unis, l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami en 2023 a mis en lumière ce sport porté aussi par les nombreux habitants originaires d'Amérique du Sud. Certains ont dépensé des milliers de dollars pour acheter des places, mais la plupart vivront ce mondial depuis chez eux ou dans des bars à cause des prix. Sanel, par exemple, a arrêté de chercher des billets.
Ce que fait la FIFA avec ses prix, c'est presque criminel. Je connais plein de gens qui ne peuvent pas se permettre d'y aller. Ce n'est pas une compétition pour les fans, c'est uniquement pour faire de l'argent.
À Miami, les places les moins chères permettaient d'aller voir la rencontre entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay pour quasiment 250€ la place.
Et alors, si vous êtes parent ou lycéen, vous êtes forcément au courant, c'est ce soir à 19h que vont tomber les premiers résultats sur Parcoursup, la plateforme d'entrée à l'enseignement secondaire qui recueillait les vœux d'un peu plus d'un million de candidats cette année, ce qui est un record.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09. Emmanuel Le Chypre est avec nous pour l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le débat sur le comportement des chômeurs est toujours vif en France. Est-ce que c'est des victimes? Est-ce que c'est des profiteurs? On a vraiment l'impression que chaque politique désormais a vraiment autour de la figure du chômeur son interprétation. Ben, on n'en sait plus en fait.
Exactement. Les réformes du marché du travail effectuées depuis 20 ans en France avaient toutes la même ambition, durcir les conditions d'indemnisation du chômage pour inciter les chômeurs à retrouver plus vite un emploi. C'était le fameux « il y a qu'à traverser la rue », vous savez, de Emmanuel Macron, avec en filigrane cette idée quand même assez répandue selon laquelle les inscrits à Pôle emploi ont tendance à un peu profiter du système et à cela couler douce. Eh bien, l'étude publiée hier par l'UNEDIC apporte effectivement quelques éclaircissements. Elle montre déjà que 20% des demandeurs d'emploi retrouvent un job avant même d'avoir touché le premier euro d'indemnisation. Au quatrième mois d'indemnisation, la moitié des allocataires ont déjà retravaillé et plus de 80% avant la fin de leur droit, qui intervient en général au bout de 18 à 24 mois. Mais attention, parmi ceux qui ont repris un emploi, près des 3/4 ont été à nouveau indemnisés par la suite, ce qui montre bien que la situation la plus fréquente, c'est plus une précarité autour du travail, j'en retrouve un, je le perds, j'en recherche un, j'en retrouve un, je le perds, j'en recherche un, plutôt que le manque de volonté des chômeurs de retrouver du boulot.
Il y a quelques profiteurs de l'assurance chômage?
Oui, absolument. Il y a bel et bien un pic de reprise d'emploi à l'approche de la fin des droits, mais ça concerne surtout quelques dizaines de milliers de personnes, et notamment des créateurs d'entreprises qui vont au bout de leur indemnisation pour porter leur projet.
Merci Emmanuel. Les chiffres du jour, comme chaque jour, ça monte ou ça descend?
Ça continue à baisser et je vous promets que vous paierez votre plein moins cher encore en fin de semaine. Le gazole 2,04, plus de 8 centimes de baisse sur une semaine. Il y a même des stations où on est repassé sous les 2 euros, puisque ce que je vous donne, c'est la moyenne nationale. Le sans plomb 95, 2,05 € de baisse sur une semaine. Le pétrole, $92,50, après une incursion quand même à moins même de 90. C'est les plus bas niveaux qu'on ait vus depuis le début de la guerre. Le gaz, on reste dans un couloir 40 à 50 euros le mégawattheure depuis le début mai.
Merci Emmanuel, il est 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h12 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, Arnaud Demanche qui revient pour nous faire rire à 8h30 face à face. Mon invité, c'est le député européen et presque bientôt peut-être candidat à l'élection présidentielle, Raphaël Glucksmann. Il publie un livre qui s'appelle « Nous avons encore envie ». C'est qui ça, nous? Et envie de quoi? Je lui pose la question à 8h30. Juste après, 8h50, nouveau rendez-vous sur RMC. Ne le manquez pas, nous serons en direct de Miami aux États-Unis avec notre envoyé spécial. Les Américains redécouvrent le soccer, le foot, 32 ans après la dernière Coupe du Monde sur le sol américain. Ne manquez pas donc ce rendez-vous, ce sera à 8h50. Pour l'heure, il est 8h12, restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15, Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour Apolline, bonjour à tous. Apo, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que les amis, vous êtes dans le suspense? C'est suspense.
Quoi?
Ce soir sur M6, peut-être que chez Julien Courbet, il y aura des infos toutes neuves sur Xavier Dupont de Ligonnès.
Yes.
En tout cas, ils l'ont promis. C'est fou, hein? Tous les flics de France, Interpol, le FBI le recherchent depuis 15 ans. Et finalement, c'est Julien Courbet, avec un standardiste et un auditeur de Poitiers, qui vont le retrouver entre un litige pour une chaudière et un problème de livraison poltrone et sofa autantico qualità. Et voilà. Si ça se trouve, Julien Courbet, il va même l'avoir en live. Xavier, ne vous inquiétez pas, on peut trouver un arrangement avec le roi Merlin, car Xavier... Oui, le béton que vous avez acheté pour refaire votre terrasse n'était pas de bonne qualité, ça a craquelé, il y avait même des gens dedans, il y avait même des chiens dedans, mauvaise qualité. N'empêche que si c'est vrai, c'est balèze, hein. Les standardistes de RTL, pardon, mais c'est un autre niveau que les nôtres, eux ils retrouvent... Non mais RTL, ils retrouvent Xavier Dupont de Ligonnès. Nous les nôtres, tu perds ton badge, c'est la panique, hein. L'entretien d'embauche pour être standardiste chez Julien Courbet, c'est du costaud. En fait, ils te larguent en Amazonie en parachute, voilà. T'as une boussole et un caillou pointu, et tu dois revenir avec Elvis.
Et en fait, il était vivant, il est pas mort, je l'ai retrouvé. Et dans la foulée, j'ai aussi retrouvé Philippe de Dieu le Vœu. Et je vous ai aussi retrouvé Jackie Quartz.
Bon, elle avait pas disparu, Jackie Quartz.
Ouais, ça se discute.
Vous imaginez, ils annoncent qu'ils l'ont retrouvé, et en fait, c'est pas lui.
Oh là là.
En fait, c'est juste un terrassier qui a acheté une pelle juste après lui à Leroy Merlin. Ou alors, c'est Patrick Sébastien qui va retirer sa perruque et ses fausses dents. Et ouais, je t'ai bien eu, Julien. On lance le grand bluff. Allez, musique. Allez, Xavier, passe-moi ta pelle. Allez, Xavier, roue-moi une pelle.
Non.
Ça fait 15 ans qu'on le recherche, Dupont de Ligonnès.
15
ans. C'est la partie de cette famille la plus longue du monde. Dans la famille de Ligonnès, je demande la mère. Pioche.
Ah non.
Ouais, pioche.
C'est dark un peu.
Mais
l'affaire est dark.
Alors, Samy Gabriel a lancé sa campagne présidentielle avec un grand meeting à Paris.
Oui, alors là, j'avoue, j'ai été mauvaise langue. J'avais dit que ça n'allait intéresser personne. Et en fait, voilà, on l'a vu, le soir même, les gens hurlaient dans la rue. Il y avait des chants dans tout Paris, des klaxons pour célébrer le discours de Gabriel Attal.
Bien sûr.
Alors évidemment, il y a eu des débordements, vous en parliez ce matin, mais ça... On connaît les jeunes centristes, on peut pas les tenir. Même si Attal a tenté de les canaliser, il était là sur les champs.
Les amis, calmez-vous. Je comprends votre enthousiasme, mais je ne suis qu'un homme. Non, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Et il a présenté son slogan de campagne, la force d'agir. Moi, je le valorise pas vraiment en le prononçant comme ça.
Non, vous le valorisez pas.
La force d'agir.
Voilà,
la force d'agir. On dirait un slogan pour un produit. On ne sait pas très bien ce qu'il fait. Ça marche pour des entrepreneurs en construction, ça marche pour des bandes muscu, pour du Viagra ou pour une banque. Bon, il a bossé ça dans sa chambre.
Mes amis, j'ai la force d'agir. Car l'action... C'est...
Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de ranger ta chambre.
Bonjour, papa président. Mais en fait, je travaille sur ma campagne.
Mais ta campagne, mon pauvre lapin. Tu vas te prendre une claque avec ta campagne.
Mais toi, t'as pris une claque avec ta compagne, alors c'est pas mieux.
Dis donc, comment tu me parles? En plus, c'était platonique avec Gauchilf Tefarani. J'aurais jamais dû la prendre, cette claque.
La radio RFM ne diffusera plus des chansons de Patrick Bruel.
Oui, ils ont nettoyé la playlist. Hein. Aussi vite qu'un homme qui nettoie son historique internet. Bon, sauf Mathieu Béliard. Dans son historique, c'est Marmiton, c'est Top Chef, c'est... Oh tiens, les recettes de Julie Andrieux. Aujourd'hui, le veau baringot. Eh ben dites donc.
On se refuse rien.
Aucun va. Bref, plus de Bruel. Vous écoutez RFM et nous avons décidé par déontologie de ne plus diffuser Patrick Bruel. Il est 8h22. Sur RFM, Michael Jackson, tout de suite. Vous retrouverez R. Kelly et Jean-Luc Lahaye pour 20 minutes de pop non-stop. Et on vous fait gagner des places pour le dernier film de Roman Polanski. On est avec un auditeur.
Bonjour, je m'appelle Jack. Merci pour les places. Je viendrai avec mes nouveaux neveux.
J'espère qu'on découvrira jamais des agressions sexuelles de la part de Gold. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur RMC Gold,
oh là là,
si c'est le cas? La radio ultime des fans de Gold. C'est Gold et voilà, c'était la dernière fois qu'on écoutait Capitaine Abandonné d'un jeune groupe toulousain, Gold. Mais vous avez vu cette vidéo terrible du bassiste de Gold avec ce troupeau de chèvres et ce mouton. Et en même temps, c'est pas pour le défendre, mais j'ai trouvé les chèvres un peu provocatrices.
Oh non,
on ne peut plus diffuser de Gold. Écoutez, c'est pas grave, on va faire autrement. Je regarde ce qu'on a dans la discothèque. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'embêtant, c'est qu'on n'avait qu'un disque.
Ah oui.
Alors ça, c'est quoi ça? Gold, non. Gold Live, non. Gold, le best-of.
Ah bah non.
Non plus. Non. Ah, ça c'est nouveau. Émile et Images, tiens, je connais pas. Avec Capitaine Abandonné.
Bon, on va voir.
Ah bah écoutez, je trouve ça pas mal.
Ouais, c'est sympa.
C'est prometteur ce qu'ils font, ces petits gars. C'est très bien. Allez, à demain.
À demain, Arnaud, qu'on retrouve tous les jours en podcast et en tournée partout en France, à Gaillac, à Hyères, à Toulouse, au Garric, à Lille ou à Morières-les-Avignon. C'est un spectacle à RMC. Il est 8h21, dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Raphaël Glucksmann, le député européen et quasi, presque, peut-être, candidat à la présidentielle. Il publie un livre, ça s'appelle « Nous avons encore envie ». C'est qui nous? Envie de quoi? Je pose la question dans un instant, à tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
11 jugés, des condamnations, mais pas de prison. Le bilan des premières comparutions immédiates hier soir à Paris, après les heures ce week-end en marge de la victoire du Paris Saint-Germain. La plupart ont écopé de sursis, d'amendes ou de peines sous bracelets électroniques. Ces comparutions immédiates doivent se poursuivre aujourd'hui. Les recherches reprennent ce matin. Un homme de 41 ans a été placé en détention provisoire pour l'enlèvement de Liana, cette jeune fille de 10 ans disparue vendredi à la sortie de son collège de Florence. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans la voiture de ce suspect, le père d'une de ses amies. Elle est toujours introuvable. La Russie dit avoir massivement frappé cette nuit des sites militaires et industriels ukrainiens. 656 drones et 73 missiles selon Kiev, la capitale qui a été victime de bombardements. Au moins 3 morts. L'est du pays aussi touché. Cette fois, 4 personnes ont perdu la vie. Donald Trump n'a pas été entendu. Le Hezbollah revendique des attaques contre des cibles israéliennes dans le sud du Liban. Le premier ministre israélien menace quant à lui de frapper Beyrouth si elles se poursuivent. Le président américain avait assuré dans la soirée que les deux camps avaient convenu d'arrêter de se tirer dessus. C'est le jour J pour des centaines de milliers de lycéens. Les premiers résultats de Parcoursup doivent tomber en fin d'après-midi. Ils vont savoir si leurs vœux d'orientation sont acceptés sous conditions ou alors refusés. Le sport est d'abord du tennis. Plus aucun Français en lice à Roland-Garros puisque Diane Paris a été éliminée en 8e de finale par la Polonaise, 114e mondiale Maya Szwalina. Niska hier. Et en foot, Emmanuel Macron attendu à Clairefontaine auprès de l'équipe de France à tout juste 2 semaines de son premier match au Mondial. Un mot de la météo avec cette perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est. Aujourd'hui, il y aura à la clé de bonnes pluies et des orages violents, surtout cet après-midi sur la façade est. Risque de grêle et de fortes rafales de vent. Les températures, elles vont dégringoler cet après-midi, 18 à Brest, jusqu'à 27 à Montpellier et Bastia. Il fera 20 à Rennes, 22 à Bordeaux.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est le député européen, presque candidat à l'élection présidentielle, Raphaël Glucksmann. Il publie un livre, ça s'appelle « Nous avons encore envie ». Mais envie de quoi ? Et qui ça, nous ? Je lui pose la question dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes député européen, vous êtes cofondateur de Place Publique, vous êtes presque candidat à l'élection présidentielle. Vous vous donnez 3 mois, on va y revenir, et vous publiez « Nous avons encore envie » pour un sursaut patriotique. Je vous interroge là-dessus dans un instant, mais évidemment, je voudrais que vous nous disiez ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Et au fond, je vais vous poser la même question que je posais hier matin à Jordan Bardella, qui était à ce même micro. Imaginons qu'on soit dans un an. Même jour, même heure quasiment, imaginons que vous ayez été élu président de la République mi-mai. 2 semaines après, il y a la finale de la Ligue des Champions. Comment est-ce que vous feriez pour que ça se passe différemment ?
Déjà, je veux vous le dire, les casseurs, qui sont une minorité, puisqu'il y avait quand même une liesse populaire avec des centaines de milliers de jeunes à travers la France qui ont fait la fête pour la victoire du PSG, de Luis Enrique, du collectif parisien. Les casseurs, qui sont une minorité, il faut les sanctionner, il faut les arrêter, il faut les écarter. Et ils sont aujourd'hui un facteur qui nous empêche de nous réunir, de nous rassembler, de faire la fête. Et il n'y a aucune forme de laxisme à avoir contre ces casseurs. Par contre, il n'y a pas de baguette magique. C'est-à-dire que ceux qui vont venir vous voir et qui vont vous dire « Moi, avec moi à l'Élysée, comme le font absolument tous les candidats à la présidentielle, eh bien avec moi à l'Élysée, je sais comment je gérerai ces groupes ». Tout cela, c'est, si vous voulez, de la propagande et de l'égotisme. Ce qu'il faut faire, c'est être intransigeant vis-à-vis des minorités qui perturbent la majorité qui veut faire la fête. Ce qu'il faut faire, c'est des comparutions immédiates comme la justice l'a fait. Ce qu'il faut faire, c'est être capable, dans notre doctrine de maintien de l'ordre, d'anticiper ces groupes mobiles qui ne viennent pas pour faire la fête et qui viennent juste pour casser, cambrioler et empêcher les autres de faire la fête.
Donc vous dites qu'il n'y a pas de baguette magique, mais vous avez une petite baguette magique quand même. Enfin, vous dites
non,
quand
y
même,
y a des
moi,
actions,
je pense qu'il faudrait faire ci et ci et ça.
Il y a des actions à mener, mais plus largement, ce qu'il faut faire, et c'est tout le débat qui va nous occuper pendant cette année qui vient, ce qu'il faut faire, c'est refaire France. C'est faire en sorte qu'on ait à nouveau une politique d'intégration dans notre pays, qu'on ait à nouveau une politique de l'autorité publique, qu'on ait à nouveau la capacité à fabriquer un peuple en France. On est une société sous tension, on est une société qui s'archipélise, on est une société qui se divise, qui se fracture. Et tout l'enjeu, c'est de refonder la République française, de faire peuple à nouveau. C'est ce que j'explore dans ce livre.
Vous voulez remettre la question du patriotisme, la question de l'amour de la France, la question du drapeau au cœur.
Et la question du service civique, la question d'appartenir à une nation. Quand des jeunes qui naissent à Trappes, des jeunes qui naissent dans le 7e arrondissement de Paris, des jeunes qui naissent en Picardie ne se croisent jamais à aucun moment de leur vie, sauf lors de matchs de foot, eh bien, nous ne sommes plus un peuple. Et moi, ce que je veux, c'est que nous fassions à nouveau peuple ensemble, nous,
mais
les Français.
Ça veut dire donc que, Raphaël Glucksmann, vous êtes finalement assez d'accord avec Jordan Bardella quand il dit il y a un lien avec la question de l'immigration, puisque vous avez répondu, non. Il faut revoir l'intégration.
Oui, mais on est une société qui se désintègre. Mais Jordan Bardella, quand il parle de lien avec l'immigration, il a des statistiques sur le nombre d'étrangers qui ont été arrêtés, sur le nombre d'immigrés, ou alors il considère quoi ? Qu'il a vu des Français noirs à la télé et qu'il en a déduit qu'ils étaient étrangers ? Il faut qu'il réponde, parce qu'il n'y a pas de statistiques là sur le nombre d'étrangers qui auraient été arrêtés par la police au moment des casses. Donc quelle est la logique ? Il fait quoi là ?
Donc,
en réalité ?
Il fait quoi pour vous ?
Ben, il fait ce qu'on appelle du profiling, c'est-à-dire qu'il explique que ces jeunes ne sont pas français. C'est ça, parce qu'en fait sinon il n'y a pas de lien avec la politique migratoire actuelle de tel ou tel gouvernement.
Pardon, Raphaël Glucksmann, quand vous-même vous dites comme première, une des premières réponses, il faut revoir l'intégration, vous-même...
Mais l'intégration de tous les Français...
C'est une question quand même
d'immigration. Bien sûr, parce qu'on est une société...
C'est-à-dire c'est un peu hypocrite de votre part.
Ah non, c'est absolument pas hypocrite. D'ailleurs, c'est pas ma marque de fabrique. Je suis plutôt sincère et direct, donc je dis ce que je pense face à vous. Et ce que je dis, c'est que oui, il y a des fractures dans notre société, qu'on a pensé qu'une société ouverte comme la société française, qu'une république, c'était une chose naturelle. Et donc, on a tout laissé à l'abandon. En réalité, vous avez des quartiers où les services publics ne sont plus présents. Vous avez, on a supprimé le service militaire sans même se poser la question de à quoi servait ce service militaire? Quelle était sa fonction sociale intégratrice? On avait, avant, des structures collectives type les grands partis politiques, les syndicats qui intégraient en permanence. On devenait français, on devenait des citoyens français, qu'on soit né ici ou qu'on ne soit pas né ici, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos origines.
Ça passe par quoi? Ça passe par quel genre de fait concret? C'est-à-dire que là, je trouve que au fond, il n'y a pas grande différence entre ce que vous dites et ce que François Hollande disait quand il disait il faut réenchanter le rêve français. C'était déjà cette même logique. Il avait dit d'ailleurs après Nicolas Sarkozy, moi je vais réconcilier la France. C'est la même logique que ce que vous dites d'une France qui serait trop éparpillée, qui serait trop divisée. Mais ça passe par quoi concrètement? Je veux dire, au-delà du slogan.
Mais ça passe par des mesures extrêmement concrètes de soutien aux structures d'intégration. En fait, c'est pas juste un récit. Déjà, ce qu'il faut, c'est que la gauche, et je me bats pour ça, se réapproprie le récit français, se réapproprie le récit patriotique, qui disent de manière très claire que nous sommes, nous, les patriotes. Et il faut qu'on puisse donc s'intégrer à un discours sur notre propre pays, qu'on dise ce que signifie être français. Mais derrière, c'est des structures intégratrices. Quand vous avez une société qui a abandonné par individualisme l'ensemble des structures qui permettaient d'intégrer, évidemment, vous avez une crise de l'intégration. Donc moi, ce que je veux, c'est un service civique obligatoire, universel, que tous les jeunes français, tous, quel que soit leur genre, toute une classe d'âge, quelles que soient leurs origines, garçons et filles, soient appelés à donner 10 mois de leur vie à la collectivité. Ça veut dire que, eh bien, à un moment dans son existence, déjà on se rencontre, quel que soit son quartier d'origine, on forme une jeunesse française à partir de ces jeunesses françaises éparpillées et on apprend à servir le commun, on apprend à servir notre pays. On va dans les EHPAD, on travaille sur la transition écologique, on va dans les écoles, on apprend à être citoyen. 1979, je suis la première année...
Vous ne l'avez pas fait le service,
la première année qui n'a pas fait le service militaire. Et ce que je dis, c'est que les élites françaises, quand elles ont décidé de supprimer le service militaire, eh bien, elles n'ont même pas réfléchi à le remplacer par quelque chose. Elles ne se sont même pas posé la question de savoir si ça servait à quelque chose ou pas. Mais au service militaire, on croisait des gens qu'on ne croise pas naturellement dans
sa
vie. Il faut sortir chacun de son environnement immédiat.
Est-ce que c'est pas un peu nostalgique d'une France que l'on imagine plus qu'elle n'était?
Ce n'est pas utopique, la République française. Une République, c'est pas naturel. C'est une construction politique, historique, sociale. On fait en sorte que chacun sorte de son environnement immédiat. Aujourd'hui, chacun vit dans son quartier. Personne ne se croise. Personne
pourtant,
ne se connaît.
Pourtant,
on vit dans son individualité.
Tous les hommes politiques que je reçois ici parlent de mixité sociale comme d'un idéal, comme d'un objectif. Ça passe par le logement. Ça passe par la question de l'école. Ça passe par la carte scolaire. Elle a été refaite. Elle a été revue précisément pour
cela. Tout le monde parle de mixité sociale, à l'école notamment. Tout le monde dit que l'école est une priorité. Vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train d'organiser une concurrence déloyale contre l'école de la République, l'école publique. Pourquoi? Parce qu'on subventionne l'école privée sans imposer la moindre conditionnalité sociale. Aujourd'hui, vous avez dans les collèges publics 43% des enfants qui viennent de milieux défavorisés. Dans les collèges privés, c'est 18%. Et la séparation entre les deux, la différence entre les deux ne cesse de s'accroître.
Donc
pourquoi? Parce qu'avant, les parents, ils voulaient mettre leurs enfants dans une école privée parce qu'ils avaient une conviction religieuse, par exemple. C'était l'école catholique. Aujourd'hui, c'est pour échapper à l'école publique qu'on choisit le privé. Moi, je ne blâme pas les parents. Ce que je blâme, c'est l'absence de politique pour faire de l'école publique un lieu d'excellence, hein, pour redresser cette école publique. Et pour faire cela, eh bien, il faut arrêter d'organiser la concurrence déloyale et donc imposer des conditionnalités aux écoles, des conditionnalités de mixité sociale, aux écoles privées qui reçoivent les subventions de l'État.
Est-ce qu'il ne faut pas supprimer carrément les écoles privées? Certains le disent,
hein,
j'avais reçu Manuel Bompard qui à un moment disait je le ferai pas immédiatement mais ça pourrait être un objectif.
Non, c'est relancer la guerre scolaire, c'est fracturer à nouveau la société. Non, moi ce que je veux c'est l'égalité de traitement. Ce que je veux c'est qu'on arrête de maltraiter l'école publique. Ce que je veux c'est qu'on arrête aussi d'avoir les professeurs, les enseignants les plus mal payés d'Europe. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui un enseignant français en primaire, eh bien il est payé 17% de moins que la moyenne de l'Union européenne et de l'OCDE, et qu'il est moins payé que son collègue slovène ou son collègue portugais en valeur absolue. On a décidé de dévaloriser le métier d'enseignant, on a décidé de dévaloriser l'école publique, et le résultat de ça, c'est une crise. Et en plus, on ajoute sur les épaules de l'école publique qui est déjà maltraitée, eh bien l'ensemble des crises de la société. Parce qu'à l'époque de la Troisième République, il y avait l'école publique, mais il y avait aussi les ligues d'enseignement, les partis de masse, les syndicats.
En fait, vous voulez revenir à cette France de la Troisième République?
Non, je ne veux pas revenir à cette France de la Troisième République. Je suis très heureux de vivre au XXIe siècle. Mais ce que je veux, c'est qu'on retrouve l'esprit fondateur de notre République. Nous sommes la France. On a un destin particulier. On a créé une société singulière. Et ce que je veux, c'est qu'on retrouve cet esprit, qu'on ait à nouveau envie d'être fier d'être français, d'être fier d'être républicain, d'être fier d'être démocrate.
On va revenir à votre livre. Je vous pose la question, puisque vous parlez de l'école, vos enfants, ils sont à l'école publique,
ils sont à l'école publique. J'étais à l'école publique, mes fils sont à l'école publique et je suis extrêmement attaché.
Et c'est pour
attaché.
Vous une fierté?
Ah mais moi je suis amoureux de l'école publique, je suis amoureux de cette nation, la République française, qui a décidé par exemple de remplacer les cours de théologie au lycée par les cours de philosophie. Vous savez, dans ma famille, eh bien, avec mon père, par exemple, chaque
vous
année,
racontez.
Quand il y avait le bac, eh bien, on s'asseyait et on repassait le bac. Pourquoi? Parce que c'était notre levée de drapeau à nous. Oui, on prenait les sujets de philo et on les faisait. Mais parce qu'en fait,
vous aviez un père philosophe aussi.
Oui, mais j'ai eu cette chance incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extraordinaire ce qu'a fait l'école de notre pays. C'est la fabrique de la France. Et le fait qu'on ait abandonné dans nos politiques publiques l'école signe qu'on a abandonné l'avenir du pays.
Je suis frappé par une forme un peu d'idéalisme. Mais allons-y.
Mais non, c'est au contraire très pragmatique. Quand vous avez des élèves qui vont au collège, eh bien, dans les Deux-Sèvres, à Matine-en-Gazières, qui vont au collège en doudoune parce qu'il fait 12 degrés dans les classes, elle est où la République? C'est très concret. Et aujourd'hui, quand ils sont dans des fours à micro-ondes que sont devenus les salles de classe, pourquoi? Parce que nous avons la canicule et parce que nous n'avons pas rénové thermiquement les établissements scolaires. Quand vous avez 30% du bâti scolaire qui est délabré dans notre pays, c'est très concret au contraire. Et la manière dont je vais relever l'école publique sera extrêmement concrète et on en verra le bénéfice pour l'ensemble de la société parce qu'on fabriquera à nouveau de la citoyenneté dans notre pays.
Nous avons encore envie, c'est le titre de votre livre. J'avoue, je comprends pas ce titre.
Ah bon?
C'est qui nous et vous avez envie de quoi?
Nous, c'est les Françaises et les Français qui ont encore envie de liberté, d'égalité, de fraternité, du destin singulier de notre nation, de notre capacité à être souverain, à être indépendant, à ne pas devenir une colonie américaine, à ne pas devenir une colonie chinoise ou un dépotoir pour produits industriels chinois.
Mais les Français, ils ont envie de quoi eux?
Ils ont envie d'un pays libre. Ils ont envie de renouer avec le destin de leur nation. Moi, c'était une question qui me tenaillait les tripes, qui me...
Oui, vous le dites. Et d'ailleurs, vous le dites depuis, en gros, votre
parce
arrivée
que je
à
vois,
Sciences Po,
je vois,
vous racontez
je,
votre...
Je vois les élites françaises
le
qu'on sacrifiait nos usines, qu'on sacrifiait nos capacités productives, qu'on sacrifiait notre indépendance, qu'on sacrifiait notre souveraineté depuis plus de 40 ans. Et donc, je me pose une question simple, c'est est-ce qu'on a encore envie?
Mais pourquoi
envie
vous n'avez pas dit « j'ai encore envie »
Parce que je pense que c'est une aventure collective, que la vraie question, c'est est-ce que les Françaises et les Français ont encore envie? Et moi, ce que je vois partout...
Mais on a l'impression que vous avez du mal
sionnant...
avec le jeu.
Non, je vais vous parler du jeu sans aucun problème. Et de toute façon, vous êtes entouré, hein, et vous les recevez tous les jours,
tous
de gens qui disent
oui,
absolument,
fois, y en a un qui dit
tout
nous,
le temps,
c'est vrai.
Tout le temps. Je suis fasciné par une chose en ce moment, si vous me le permettez, c'est les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron qui viennent et qui disent je, expliquez-moi la différence entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Franchement, je pense que les électeurs macronistes sont très perdus. Et qui disent je, et qui font semblant, en plus, de ne pas connaître Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est littéralement hallucinant. Moi, j'écoute vos entretiens. Quand ils viennent chez vous, ils vous expliquent qu'ils n'ont jamais rencontré Emmanuel Macron. Enfin, ils ont
quasi,
été premiers,
voilà, enfin,
ils ont été premiers ministres d'Emmanuel
faire,
Macron.
Quoi.
Voilà, c'est un peu comme des ministres de Louis XVI qui, en 1789, se transforment soudainement en révolutionnaires. Ils promettent tous une rupture incroyable. Une rupture par rapport à quoi? Une rupture par rapport aux 10 années où ils avaient le pouvoir.
Donc, pour vous, ils ne sont pas crédibles.
Non, mais...
Vous seriez, vous, le candidat. J'ai quand même regardé. Vous dites, je me donne 3 mois. Mais dans 3 mois, sur quels critères vous déciderez?
Déjà, je me donne 3 mois pour proposer et dialoguer avec les Françaises et les Français autour de ce nouveau contrat patriotique. Parce qu'il faut refonder la France, la reconstruire, la réparer. Ensuite, je me donne 3 mois pour rassembler mon espace politique, parce que je suis convaincu que la gauche démocratique et
mais
républicaine...
Mais il va d'où à où? Par exemple, gauche... justement, est-ce que vous estimez que les électeurs de Gabriel Attal ou d'Édouard Philippe sont les mêmes que les vôtres?
Non, ce que je dis, déjà je dis que tous les électeurs sont bienvenus pour nous rejoindre dans ce cadre de la gauche républicaine et démocratique. Mais ce que je dis, c'est que cet espace-là, cet espace de la gauche républicaine, est le seul qui pourra battre l'extrême droite en 2027. J'en suis convaincu. Parce que je sais que les Françaises et les Français veulent du changement, qu'ils ne veulent pas repartir avec les mêmes ministres que depuis 10 ans pour faire les mêmes politiques.
Il y a un sondage
et ils ne veulent pas non plus d'un match entre les extrêmes. Ils ne veulent pas de ce duel entre Mélenchon et Bardella, donc qui essaye de faire monter cette petite musique. Moi, ce que je dis, c'est qu'entre Mélenchon et Bardella, il n'y a pas rien, contrairement à ce qu'ils nous expliquent. Il y a même l'essentiel. Il y a la République, il y a la démocratie et que nous allons incarner cela.
Alors, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, en tout cas dans les sondages, je regarde le dernier, hein, celui qui a été publié par Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Jean-Luc Mélenchon est à un niveau élevé. Mmh. Le seul scénario dans lequel vous seriez plus haut que lui à gauche, c'est le cas où Édouard Philippe ne serait pas candidat. Dans ce cas, vous êtes à 14% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon 13 et Gabriel Attal lui à 14,5. Jordan Bardella 35.
Moi, je fais pas semblant. Je lis les sondages parce qu'il y a des politiques qui arrivent et qui disent non, moi les sondages ça m'intéresse pas, moi mon œil. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lis les sondages. Et l'autre hypothèse, c'est celle où il y a Édouard Philippe qui est candidat pour le bloc macroniste. Eh bien, dans ce cas, je suis à 13 et Jean-Luc Mélenchon est à 13. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lui a déjà commencé sa campagne et que nous sommes à égalité ou devant. Et la vérité, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une confrontation avec la France insoumise dans une élection nationale, nous les avons pliés et nous les plierons à nouveau parce qu'une écrasante majorité des électrices et des électeurs de gauche ne veulent pas de cette fracturation permanente de la société. Ils veulent une gauche démocratique et républicaine. Et par ailleurs, ils savent aussi pertinemment qu'envoyer Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, eh bien, c'est assurer la victoire de l'extrême droite. Et qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est devenu une sorte d'agent électoral de l'extrême droite.
Si vous vous retrouvez avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, vous faites quoi?
Mais je ne me retrouverai pas avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, je vous le dis.
Est-ce que vous les mettez sur un pied d'égalité? Est-ce que vous mettez un signe égal? Ou est-ce que la menace, ça reste... J'ai lu votre livre, vous ciblez la menace, ça reste l'extrême droite.
Mais la menace...
Vous dites ils ne peuvent pas arriver, on ne peut pas les laisser arriver. Jordan Bardella, Marine Le Pen, c'est pas
possible. Mais la menace aujourd'hui de prise du pouvoir, c'est celle de l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui menace de prendre le pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucun scénario où il est le président de la République. Donc moi, ce que je vous dis, c'est une chose très simple. La menace principale, c'est l'extrême droite. Et nous serons là pour la battre. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et qu'Emmanuel Macron a déjà complètement délégitimé. C'est qu'une élection ne peut pas se jouer simplement sur un barrage. Il va falloir faire plus que de dire ne faites pas les imbéciles, ne votez pas à l'extrême droite, c'est dangereux. Il va falloir même faire plus que d'expliquer ce qui est vrai, que ce sont des patriotes de pacotille au service de Trump et de Poutine. Il va falloir faire plus que cela.
Il
va falloir
ressusciter. Il faut aussi leur prendre le drapeau, c'est-à-dire effectivement
une envie dans la société française.
Nous avons encore envie. Une question, vous l'avez suivie, j'imagine, et en particulier parce que justement la question de l'Ukraine et de la Russie vous est chère. Xenia Fedorova, qui est donc journaliste sur CNews, s'est vu renouveler sa confiance de la part du média, mais elle a aussi, on l'a vu, obtenu un titre de séjour de 10 ans, alors que Russia Today, qu'elle dirigeait initialement, avait été fermée en 2024. Elle est aujourd'hui vilipendée, y compris par le ministre des Affaires étrangères français. Est-ce que pour vous, Xenia Fedorova peut encore avoir ce titre de séjour? Est-ce que la France doit le lui retirer?
Comment l'a-t-elle obtenu ce titre de 10 ans quand on sait la difficulté que c'est généralement d'obtenir un tel titre de séjour? Comment l'a-t-elle obtenu après le début de la guerre en Ukraine? C'est-à-dire qu'elle l'a obtenu 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, alors même qu'elle était la propagandiste de Poutine qui menace l'ensemble du continent européen. Donc, mais au-delà de ça, ce que ça montre...
Mais pardon, quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver qui a à un moment validé ce titre de séjour et qu'il y a une forme de responsabilité.
Il va falloir que le gouvernement s'explique, parce qu'une propagandiste anti-française...
Pour l'instant, ils disent dont la carte est renouvelée, c'est automatique, on sait
dans
pas.
La carte de 10 ans, qui obtient une carte de 10 ans ainsi, eh bien ça pose problème. Mais au-delà de ça, ce que ça montre, c'est qu'en fait...
Mais est-ce qu'il faut que ce titre de séjour lui soit retiré désormais?
Mais ça, c'est Monsieur Nunes qui doit prendre ses responsabilités. Maintenant, ce que ça montre, c'est quand même que tous ces gens à l'extrême droite, chez Monsieur Bolloré, qui font profession de patriotisme H24. Tous ces gens sont des patriotes de pacotille qui ouvrent leur micro, qui ouvrent leurs médias sans contradiction à une propagandiste russe anti-française qui passe son temps à battre la coulpe des Français. Et moi, je vous le dis, en réalité, la Russie n'est pas une menace pour l'Ukraine, simplement. C'est une menace pour la France, pour l'ensemble de l'Europe. Moi, j'ai été président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères. Et les Russes mènent des opérations de déstabilisation permanente.
Elle en est un des visages pour vous ?
Elle est un des visages de ces opérations d'influence russe dans notre pays. Et ces patriotes de pacotille de l'extrême droite qui, en permanence, décernent des brevets de « est-ce que vous êtes pro-français ou pas ?», en réalité, ils votent toujours Bardella au Parlement européen contre les intérêts de la France, contre la défense européenne, contre l'industrie française, contre... À l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, elle vote même contre la taxe sur les petits colis de Chine. C'est-à-dire cette entreprise chinoise qui est en train de ratiboiser la production française et qui est en train de ratiboiser aussi les petits commerces dans les villes moyennes françaises. Donc en fait, ils votent contre les intérêts français. Ils sont au service de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Et
Éric Zemmour hier dit que vous êtes un agent de Kiev.
Mais moi, je suis un agent de la France. Je suis un patriote français et je veux servir les intérêts de mon pays. Et Éric Zemmour, lui, est au service de son idéologie. Et traditionnellement, cette extrême droite, eh bien, préférera toujours son idéologie aux intérêts nationaux français. Et donc, les Merci. Vrais patriotes, ce sont nous. Il faut leur reprendre le drapeau tricolore. Il faut délégitimer leur prétention à incarner la France. Nous sommes les patriotes et eux, ce sont des xénophobes et des idéologues.
Merci Raphaël Glucksmann d'avoir répondu à mes questions. 8h48 sur RMC TV. Dans un instant sur RMC, on va prendre la direction des États-Unis. La Coupe du Monde a déjà débuté sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et vous êtes bien sur RMC, il est 8h52. La Coupe du Monde de foot, premier match le 11 juin, mais ça a déjà commencé sur RMC.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bonjour Virginie Fulpin, dans un instant avec vous, on va s'intéresser à la visite du président de la République ce midi. Il sera à Clairefontaine, il va aller rencontrer les Bleus. Mais on commence par faire un petit tour du côté des États-Unis. On passe par Miami, où vous êtes l'envoyé spécial d'RMC, Martin Bourdin. Bonjour Martin. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs, parce que c'est la nuit chez vous. Alors 32 ans après le dernier mondial qui avait été organisé chez eux, les Américains vont redécouvrir le foot, parce qu'ils sont pas forcément prêts, hein.
Non, pas forcément, mais pour se mettre à jour, ils peuvent compter sur la Bible du sport ici aux États-Unis. Le site ESPN qui a publié un long article il y a quelques semaines pour rappeler dans le détail la règle du hors-jeu, règle essentielle qu'ils ne connaissent pas forcément, parce que le soccer, ce n'est pas forcément dans la culture américaine. Léo et Chuck me l'ont très vite fait comprendre. Ce sont les deux premières personnes que j'ai interviewées en arrivant ici. Et visiblement, j'étais un peu trop enthousiaste pour eux au sujet de cette Coupe du Monde.
Ça ne m'intéresse pas. Je ne connais même pas les équipes, je ne connais pas les joueurs, je ne connais rien et je n'ai pas envie de connaître. Ce ne sont que des enfants gâtés, glorifiés, que les enfants prennent pour des héros. Ce ne sont pas des héros.
Je m'en fiche, je déteste le foot. Moi, je suis fan de hockey, donc le foot, je déteste. Les footballeurs, ils sont toujours à se rouler par terre. J'aime les sports de dur, moi, donc je ne peux pas regarder le foot. C'est trop lent pour moi.
Mais Martin, Miami, c'est là où joue Messi. Ça va pas faire quand même changer les regards? Ça a pas fait changer les regards des gens?
Si, si, ça a rendu le foot plus visible. Heureusement, me direz-vous, vu ce qu'on vient d'entendre, ça fait de Miami peut-être la plus grande ville de soccer aux États-Unis. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'expatriés européens, sud-américains, souvent fans de foot. Eux ont hâte que ça commence. Jaime, par exemple, il est d'origine espagnole. Il va peut-être avoir des comptes à rendre à son banquier dans les prochains jours.
Je vais aux deux premiers matchs de l'Espagne à Atlanta. $300 chaque place, rien de fou. Mon frère, lui, a réussi à trouver des places pour un quart de finale pour $1,300. Et on a des billets pour une éventuelle demi-finale de l'Espagne. C'était à $2,700. C'est beaucoup d'argent, mais ça n'arrive qu'une fois dans la vie, ça. On n'a pas besoin de prendre l'avion jusqu'en Russie ou en Europe. La Coupe du Monde est dans notre jardin, donc faut en profiter.
Donc il a dépensé $4,300, plus de €3,700 hein, à peu près. Pour c'est voir ça. 4 matchs, c'est insensé.
Ouais, et ben, Pauline, figurez-vous, vous avez le même avis que Donald Trump, le président américain, a avoué lui aussi.
Je ne sais pas comment
semaines.
Le prendre, Martin.
Voilà, dans ce cas-là, je pense qu'on peut tous les deux vous comprendre. En tout cas, le président américain a avoué qu'il n'aurait pas payé ces sommes-là s'il avait eu à le faire. Le prix de ses billets, le prix de ses places, ça rend fou les fans ici. Ils se sentent évidemment exclus de ce mondial et ils le disent avec des mots très forts. Sanel, par exemple, a fini, lui, par carrément arrêter de chercher des places.
J'ai vu des billets pour un match à Toronto. C'était plus de $20,000. Il faut mettre des limites. Ce que fait la FIFA avec ses prix, c'est presque criminel. Ça me révolte ce qu'ils font cette année. Ils gagnent de l'argent sur la vente et sur la revente de billets. Ce sont nous, les fans, qui en sommes victimes. Je connais plein de gens qui ne peuvent pas se permettre d'y aller. Ce n'est pas une compétition pour les fans. C'est uniquement pour faire de l'argent.
Merci Martin. Toute la semaine, vous nous racontez donc cette Amérique de Donald Trump qui s'apprête à vivre la Coupe du Monde. Il est 8h52.
RMC.
Le mondial de Virginie.
Philippin, toujours là, l'info du jour, c'est qu'Emmanuel Macron donc va rendre une petite visite aux joueurs de l'équipe de France.
Ouais, aller voir les Bleus avant une Coupe du Monde, c'est une tradition qui date de Jacques Chirac en 1998.
Je pense que je devrais pouvoir remettre à l'équipe de France la Coupe Jules Rimet le 12 juillet. Alors je m'entraîne moi aussi.
Et Jacques Chirac a bien fait de s'entraîner. On se rappelle vaguement que les Bleus ont gagné la Coupe du Monde cette année-là. Le président avait embrassé le crâne de Fabien Barthez après la victoire. Un élan de sympathie pour celui qui disait aimer plus les footballeurs que le football.
C'est devenu un passage obligé donc ?
Ah ben la visite à Clairefontaine pour les présidents, vous savez, il y a un petit peu de superstition comme on avait gagné en 98. Nicolas Sarkozy, grand fan de football, notamment du Paris Saint-Germain, était allé voir les Bleus avant l'Euro en 2008 en faisant un clin d'œil à Raymond Domenech.
Football, il y a un point commun avec la politique. C'est que tous les Français sont sélectionneurs et tous les Français sont présidents de la République. Du moins, ils ont une idée sur la façon dont on doit être sélectionneur et la façon dont on doit être président de la République.
Voilà, 60 millions de sélectionneurs, 60 millions de présidents de la République.
Emmanuel Macron, lui, va vivre donc sa troisième Coupe du Monde en tant que président.
Pour l'instant, il a été gâté. Une victoire en 2018, on avait vu le président déchaîner en tribune en Russie et transcender lors de la Garden Party de l'Elysée avec les Bleus.
Merci d'avoir apporté cette coupe.
Alors, en 2022, la France est allée en finale au Qatar, battue par l'Argentine au tir au but. Emmanuel Macron était allé consoler Kylian Mbappé sur le terrain. Il avait reçu beaucoup de critiques dans le vestiaire après la défaite. Il y avait encore du football et de la politique.
En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France.
Et vive le déjeuner, vive la nourriture, puisque c'est à déjeuner qu'Emmanuel Macron va voir les Bleus à Clairefontaine aujourd'hui.
Merci beaucoup Virginie, le mondial de Virginie, tous les matins sur RMC. Début de la Coupe du Monde, donc le 11 juin. Et dès maintenant, vous pouvez retrouver tout sur l'appli et le site RMC, les podcasts, pour découvrir une par une les 48 équipes du mondial. Dans un instant, les GG, quel est le programme Alain ?
Eh bien, dans les grandes gueules, on va revenir sur les comparutions immédiates des casseurs de l'après-finale de la Ligue des Champions. Alors, de la prison ferme, mais personne derrière les barreaux. Venez commenter ça avec les GG. On sera avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, pour parler de l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que la gauche est sûre de se retrouver au deuxième tour? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, le professeur de philosophie Jean-Loup Bonamy, Zor Habitant, cadre de la fonction publique, et puis on a une troisième GG inédite aujourd'hui. C'est l'homme aux 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Sam Zira va faire les grandes gueules avec nous de 9h à midi.